Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons des visiteurs aujourd'hui. Est-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Ok. Ça va, Esther? Il est quelle heure? Quarante. C'est rare, hein? C'est rare. Nia, ça va, les examens, c'est fini? T'as fait pas examen? Croyez. Les autres sont en examen. Puisque c'est dimanche que le frère a prié pour ceux qui étaient en examen. Il y en a qui sont en examen. Agapé, ça va? Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse tous richement. Amen. Juste pour vous dire que dans... Ah oui, ah, vous avez des salutations pour ceux qui étaient là vendredi, ils les ont eu déjà. Mais hier, il a renouvelé cela. Frère Jean-Gérard vous salue tous en le précieux nom de Jésus-Christ.
Amen.
Et il vous remercie de l'accueil que vous lui avez réservé tout au long de son séjour.
Amen.
Ici, il est rentré ce matin à Kinshasa. Vous avez aussi les salutations... Ah, Frère Tombo le connaît. C'est un fiston qui est... Je l'appelle fiston parce qu'il a le même âge que certains de mes neveux. C'est un petit frère. Frère Tombo le connaît, Frère Albert aussi, je crois. Il est au Congo et il dit « Les filles ne sont pas là. Bérénice, David est là. Hein. » Il vous salue tous. En le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je lui ai dit que nous le saluons également, au nom de Jésus-Christ, qui dit que Dieu te bénisse. Ouais. À propos, c'est le 8 février que je compte partir, Dieu voulant, au Congo pendant 3 semaines. Mon épouse commence la pension. Normalement le 1er mars. Alors, je voulais quand même que l'année passée, comme elle est allée au Congo au mois de février pour un deuil, c'est son mois anniversaire. Je lui ai dit pour ce coup-ci que tu puisses y aller pour autre chose que pour le deuil. Alors, nous irons là-bas et son anniversaire se passera pendant que nous serons là-bas. Et nous partons le 8 et nous serons de retour vers le 29. Le 29 février, et sa pension commence officiellement le 1er mars. Voilà. Maintenant, elle a commencé, elle est en vacances, mais elle a un autre contrat qu'elle honore pour la dernière fois aujourd'hui également. Ça va? Je crois avoir tout dit, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si j'ai oublié de dire quelque chose, je vous rappellerai. Mais nous sommes dans le mois de janvier, nous soufflons un peu dans les enseignements. Nous allons encore prêcher. On verra bien, après le retour, s'il y a un sujet à enseigner qu'il faudra lancer. C'est ça, comme la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui décidons. Ça va?
Amen.
Ça tient toujours pour la fin du culte? Ok, ça va. Nous allons prier et nous allons commencer. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour nous avoir réunis. Et nous te remercions particulièrement pour notre sœur. Sa maison a brûlé, mais tu l'as épargnée. Non seulement elle, mais certainement les habitants également. Il y a eu des dégâts, que les choses matérielles, ce sont des choses dont tu peux encore pourvoir. Parce que tu es Dieu, tout est entre tes mains. Mais ce qui est le plus précieux, c'est la vie que tu nous as donnée, le souffle de vie, cette âme précieuse, vivante qui est en nous. Ô Dieu, puisse-t-elle être vraiment sous ta protection et sous ta conduite. Nous te remettons également l'Assemblée tout entière. Nous te prions de bien vouloir nous conduire dans la lecture de ta parole ainsi que dans la prédication. Demandons de bénir, de donner la force à tes enfants, aux enfants qui sont en examen. Et nous te demandons de les assister également, ainsi que la santé, car nous en avons besoin. C'est une grâce que de pouvoir passer des examens, parce que parfois le corps peut refuser, mais ici tu as permis aussi, nous te remercions de tout notre cœur. Merci Père pour la parole qui va être donnée. Merci pour les cantiques qui ont été chantées. Merci pour toute chose, pour l'adoration qui t'a été adressée. Nous t'adressons notre prière dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et je salue également Clémence, parce que la fille, la sœur de notre sœur Sylvie, elle a parfois l'habitude de suivre en direct. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Nous saluons aussi la maman. Vous avez les salutations de la sœur Astrid. J'allais oublier. Elle voulait être parmi nous ce matin, mais les enfants lui ont dit que ça glisse encore dehors. Et c'est vrai, ça glisse encore. Donc, nous la saluons. Que Dieu la bénisse richement.
Amen.
Ainsi que le frère Hippolyte. Nous lirons ce matin dans l'évangile de Luc. Dans l'Église catholique, on dira Saint Luc, ce qui est vrai. C'était un saint, donc ce n'est pas faux du tout. En Saint Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 6. Verset 17. Jusque 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Une foule. Et une multitude de personnes de toute la Judée. Il y avait des disciples. Il y avait des personnes de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris.
Amen.
Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Tous.
Amen.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Bénisse vos oreilles qui ont écouté la lecture. Bénisse votre cœur qui l'ont reçu cette parole. Maintenant, nous voyons beaucoup. Et ils venaient de toute la Judée. Certains de Jérusalem. D'autres de la contrée maritime et d'autres même depuis les nations, depuis Tyr et Sidon. Hein, vous vous souvenez de la femme sidonienne, n'est-ce pas? Et je sais que dans une de ses prédications, Père Abraham dit, plus le sacrifice est grand, plus on est béni.
Amen.
Et ce sont des gens qui ont fait des kilomètres.
Amen.
Et ils n'avaient pas de voiture climatisée. Ils sont venus, certains à pied, certains, je ne sais pas, peut-être à cheval ou en chameau, je que sais-je, mais ce n'était pas des déplacements de tout repos. Et vous voyez la bénédiction qui en découlait, n'est-ce pas? Dernier verset qu'on a lu dit, ils étaient tous guéris.
Amen.
C'est pas merveilleux ça?
Amen.
Nous intitulerons le sujet de ce matin, une force sortait de lui.
Amen.
Cet homme de Galilée, qui était élevé devant l'Éternel comme une faible plante, méprisé, n'avait rien pour plaire, il n'avait rien d'imposant, mais en lui, il y avait une force invisible qu'on ne voyait pas. Marc, chapitre 5. Une force sortait de lui. Marc 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus va nous dire, ce n'est pas le vêtement qui l'a guéri. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui.
Amen.
Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Personne n'a vu. Lui, il a senti la force sortir de lui. Et il demande, pose la question, « Qui a touché mes vêtements ?» Les disciples n'ont rien vu. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. C'est une force efficace contre toutes les maladies. Il guérissait toutes les maladies. Elle guérissait toutes les maladies, cette force. Et si cette force guérissait toutes les maladies, ce n'est rien d'autre que Jéhovah Rapha. Pourquoi ? Psaume 103. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Amen.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités.
Amen.
qui guérit toutes tes maladies. Oh, vous dites, frère François, Jéhovah, une force. Eh oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est David qui le dit. Et pas seulement David, mais disons ceci. David n'était qu'un enfant, n'est-ce pas ? 1 Samuel 17. Il n'était qu'un enfant. De la même manière que Jésus était élevé devant l'Éternel comme une faible plante, David, aux yeux de Saül, n'était qu'un enfant. Hein, Samuel 17. Verset 33. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. J'aimerais bien poser la question à Saül, « Où est-ce que tu l'as vu quand il était jeune ?» Oui. Il dit, lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. À main nue, à main nue. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Si vous êtes l'armée du Dieu vivant, vous devez savoir quel est votre statut. Vous devez savoir ce qui est en... quel est votre armement. Vous devez connaître quelles sont vos armes. Vous devez savoir de quoi vous êtes capable. Qu'importe quel Goliath qui se lève devant vous, vous devez être sûr de vous. Vous êtes l'armée du Dieu vivant. Il ne vous a pas donné de fusil. Il ne vous a pas donné des drones. Il ne vous a pas donné des canons. Il vous a donné une force qui est en vous. Israël ici ne le savait pas, mais David le savait. David dit à Saül, il dit ceci, au verset 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Justement, lorsqu'il entend ça, « Que l'Éternel soit avec toi », David dit ceci, ma force, hein, ma force, c'est l'Éternel. Amen. 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 Psaume 28. Psaume 28. Toujours David. Verset 6. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Je vous laisse lire le verset 7.
L'Éternel est ma force.
Merci. Dieu vous bénisse. L'Éternel est ma force. David dit, sa force, hein, c'est l'Éternel. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Et vous savez quoi ? Si vous vous confiez en lui, vous savez quoi ? Ésaïe 30. Amen. Vous confier en lui signifie vous placez votre confiance en lui. Ésaïe dit, Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur,
Amen.
L'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Ça ne sert à rien de vous agiter. Il ne faut pas vous agiter. Restez tranquille. Et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme. Dites amen à ça.
Amen.
C'est dans le calme. Soyez calme.
Amen.
Restez calme.
Amen.
N'ayez pas peur.
Amen.
Et la confiance.
Amen.
Confiez-vous.
Amen.
C'est la confiance.
Oui.
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Amen.
Et vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non? Nous prendrons la course à cheval. Laissez les chevaux tranquilles.
Amen.
Laissez les missiles tranquilles. Nous ne nous battons pas avec les missiles. C'est Goliath qui se bat avec ça. Nous ne nous battons pas avec des drones. C'est Goliath qui se bat avec ça.
Amen.
Nous allons au combat au nom de l'Éternel. C'est lui notre force. Parce que vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Si vous allez avec vos chevaux, vous fuirez. Nous monterons des coursiers, ce sont des chevaux, des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Une force sortait de lui. Cette force était permanente. Cette force-là. Oh là là. Mais donc, David dit que l'Éternel est sa force.
Amen.
Vous savez, Israël était la plus petite des nations. Deutéronome 7. Verset 6. Car tu es un peuple saint. Ça, c'est Israël. Tu es un peuple saint, mis à part, pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, t'a élu, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, vous a élu, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ça va? Allons un peu voir. On va revenir à 1 Pierre. 1 Pierre. Israël était un peuple saint. 1 Pierre. Chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous qui avez cru, parce que pour les incrédules, c'est le contraire de ça, de ce que je vais dire. Ça va? Mais pour les incrédules, d'abord, on peut, verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Ça va? Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
Mais vous qui croyez, d'abord, ils s'y heurtent, ceux qui ne croient pas, pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous qui avez cru en sa parole, vous donc, au contraire, vous êtes une race élue, choisie. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple saint. Un peuple à qui vous lui appartenez, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et David dit toujours, je crois que c'est toujours dans le psaume 6, 20, 28, pardon. On reprend ce qu'on a lu tout à l'heure. Béni soit l'Éternel, verset 6, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, c'est de la joie. Et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Vous qui êtes son peuple aujourd'hui, votre force, c'est l'Éternel. L'Éternel est la force de son peuple. Et l'Éternel, c'est Jéhovah. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Si les années sont passées, le Dieu d'autrefois, c'est toujours le Dieu d'aujourd'hui. Il est le je suis. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Malachie 3:6 nous dit, il est l'Éternel, il ne change pas. Il garde toujours sa nature. Si sa nature c'était Dieu autrefois, sa nature c'est toujours Dieu aujourd'hui. Cette force-là qui était pour son peuple autrefois, c'est toujours la même force du peuple, de son peuple aujourd'hui. Le peuple d'autrefois n'est peut-être plus là, mais aujourd'hui, il ne manque pas de peuple. Il a toujours un peuple. Et ce qu'il a toujours donné à son peuple, de génération en génération, il le donne à son peuple. Si son peuple était fort autrefois, son peuple est fort aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Et vous allez voir qu'ils sont forts. Une force sortait de lui. Paul dit ceci. 2 Corinthiens 5. Et cette force-là, il l'a déployée en Christ. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Dans Éphésiens chapitre 1er, il nous le dit. On le lira tout à l'heure. Il a déployé cette force-là en Christ. Et cette force sortait de Christ. Amen. Et cette force-là guérissait les malades. Cette force-là chassait les esprits impurs. C'est une force phénoménale. Vous savez, nous, quand on nous amène quelqu'un de possédé et qu'on nous demande de prier pour lui, ou qu'on nous demande de chasser le démon, on va tous se mettre à crier ici. Satan, sort ! Lui, il le disait calmement. Et rien. Vous savez, quand on est venu le chercher au jardin de Gethsémané, il a juste demandé, qui cherchez-vous ? Ils sont tous tombés par terre. La seule fois où je le vois crier, c'est quand, peut-être qu'il a crié ailleurs, hein, mais la seule fois où je le vois crier, c'est quand il rappelle Lazare.
Amen.
Lazare, oui. Sors. Et je sais aussi que pour me sortir de là où je serai, si je suis là-bas, lorsqu'il viendra me chercher, il devra crier pour me sortir de là. Et sinon, c'était calme. Oui. David est allé calmement vers Goliath. Oui. C'est Goliath qui parlait beaucoup. Oui. Suis-je un chien pour que tu viennes avec des pierres? Oui. David lui dit, je viens au nom de l'Éternel.
Amen.
Paul disait dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, je voulais juste vous dire ceci, car Dieu était en Christ. Cette force que vous voyez sortir là, c'est parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Retenez bien ça, Dieu était en Christ. Quand il était dans son temple de chair, il se faisait appeler, il parlait de lui souvent comme étant le Fils de l'homme. Prophète. Fils de l'homme, c'est le prophète. Vous savez que les prophètes, on les appelait des dieux. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu venait à eux. Jean 10. Lui, il n'était pas un Dieu, il était Dieu avec nous. Frère François, tu dis, il était Dieu. Non, je dis ceci, quand il est venu, on va le lire, il était Emmanuel. Mais maintenant, il n'est plus Emmanuel. C'est dans son temple de chair, il était Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Amen. Oh là là. Jean chapitre 10, verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de mon Père, venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Pas tu te fais un Dieu, non. Tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu la loi, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Amen.
C'est Dieu dans la chair.
Amen.
Amen. Au jour de la Pentecôte, il a, justement, c'est au jour de la Pentecôte qu'il a changé de ce statut-là, de Fils de l'homme à Fils de Dieu. Ça va? Il était venu dans la chair en tant qu'Emmanuel, Matthieu chapitre 1er, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
Amen.
Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. L'ange donne la signification d'Emmanuel.
Oui.
Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment discuter. L'ange donne la signification d'Emmanuel. Il y en a qui discutent encore, ils disent, mais non, ce n'est pas ça. Mais non, l'ange donne. Si l'ange ne peut pas se tromper, si l'ange se trompe, Dieu va le frapper. Et Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un, un ange, dont il n'est pas sûr de dire ce qu'il doit dire. L'ange dit exactement ce qu'il devait dire. Et l'ange donne la signification, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et pas le Fils de Dieu avec nous. Amen. C'est Dieu avec nous. Et quand le jour de la Pentecôte, ça c'est quand il est venu dans son temple de chair, au jour de la Pentecôte, il est venu à nous, non pas pour être avec nous, mais pour être en nous.
Amen. Amen.
Jean 14, je crois. Je n'ai pas noté, mais je crois que c'est Jean 14. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera...
Amen.
Ça va? Quand, pendant qu'il leur parlait,
yes.
Il était avec eux. Il dit, quand il viendra, l'esprit de vérité, il sera en vous.
Amen.
Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et je serai toujours invisible. Toujours cette force-là, invisible. Mais vous, vous allez apprendre à le voir. Parce qu'il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis... Et vous vivrez aussi. L'exemple le plus simple que j'aime bien donner, c'est celui de ce frère qui s'en va dans la forêt, se promener, il regarde Dieu Tout-Puissant. Il voit la forêt, hein, comme vous, lorsque, enfin, comme un incrédule peut voir, pas vous, un incrédule peut voir la forêt, il voit des arbres. Il voit des arbres, ça c'est le chêne, ça c'est le bouleau, ça c'est de l'arbre, ça c'est le hêtre. Il va vous citer tout un tas d'arbres. Mais le chrétien, il voit ces arbres. Il dit, Dieu Tout-Puissant. Quand je regarde le hêtre, le chêne, je regarde, je ne dis pas, oh le chêne est grand. Je dis, que tu es grand. Dieu est grand. Cette force, elle est phénoménale. Quand je vois, moi ça m'est arrivé, je vous l'ai déjà dit, ça m'est arrivé en regardant l'océan. Je vous assure, si vous avez l'occasion d'être sur une falaise qui surplombe l'océan, quand on est à la plage, on voit ça de trop bas. Mais mettez-vous sur une falaise. Et l'océan est là devant vous. Mais c'est... imaginez qu'il y a un créateur.
Amen.
Essayez un peu de passer la Bible devant vos yeux.
Amen.
En regardant cette eau-là. Dieu est grand.
Amen.
Toute cette eau-là. Et il dit, vous, quand vous entendez chanter les oiseaux, ah, il y en a qui ils entendent l'hirondelle chanter, ah, c'est le printemps. Non, lui, il voit le printemps. Mais le frère, là,
Amen.
Il dit, quand j'entends les oiseaux chanter,
Amen.
Amen. Je vois le petit ruisseau. Là où les gens jettent leur plastique aujourd'hui, mais non, l'autre, il n'ose pas jeter sa bouteille de plastique ou sa canette dans le ruisseau. Non, il n'ose pas. C'est une création du Dieu vivant. Il dit non, Dieu est grand. Dieu est grand. Oh, il sera en vous. Et justement, Paul dit, Christ en vous.
Amen.
Colossiens chapitre 1er. Verset 25. C'est d'elle, l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Christ en vous, ça veut dire cette force-là, en vous. Elle est en vous. La force phénoménale-là, elle est en vous. Donc cette force est-elle en nous? Le Saint-Esprit que Dieu répand en nous est un esprit de force. Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. Verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de
force.
Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Vous savez, ce passage, ce chapitre d'Ésaïe a inspiré un frère qui était un jour assis ici parmi nous. Moi, le frère habite loin. Et quand ça a inspiré le frère, on le chante, hein? Consolez, consolez mon peuple. Consolez-le. Vous n'êtes pas faiblard. Devant les calamités qui se passent, il y a une force en vous.
Amen.
Vous n'êtes pas faiblard devant les maladies. Il y a une force en vous.
Amen.
Vous n'êtes pas faiblard devant la mort elle-même. Il y a une force en vous.
Amen.
Vous n'êtes pas faiblard dans la douleur.
Amen.
Il y a une force en vous. Nous pouvons paraître faibles quand nous sommes frappés. Nous pouvons paraître faibles. Paul dit, nous sommes forts. 1 Corinthiens 4. Car Dieu, verset 9, pardon. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres,
les derniers des hommes.
Amen.
Aujourd'hui, ceux qui s'appellent apôtres veulent être les premiers. Ils sont les derniers. Vous êtes avant eux. Il me semble, à fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, Corinthiens, mais vous êtes sages en Christ. Nous, apôtres, nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons. La faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Nous sommes injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Alors quand vous lisez ça, vous dites, oh, pauvre Paul. Non, Paul n'est pas à plaindre. Ne plaignez pas Paul.
Amen.
Paul dit, à l'exception de ces chaînes, j'aimerais que vous preniez ma place. Parce que les choses que Dieu me montre, l'excellence des révélations que j'ai, c'est Paul qui parle, pas moi. L'excellence des révélations que j'ai, Paul dit, j'ai été transporté jusqu'au troisième ciel. J'ai vu des choses, je ne sais pas comment vous... Je connais l'hébreu, hein, c'est une langue riche, hein, mais je ne sais pas vous expliquer ça en hébreu. Je ne peux pas vous l'expliquer en grec non plus. Je ne peux pas vous l'expliquer en anglais. Je ne peux pas vous l'expliquer en français. Il n'y a aucune langue qui peut l'expliquer. Amen. Il dit, mais croyez-moi, j'ai vu des choses. Paul n'est pas à plaindre. Amen. Vous n'êtes pas à plaindre non plus. Vous êtes fort. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 12, justement. Ne me plaignez pas, ne le plaignez pas. Oh, pauvre Paul, on lui a coupé la tête. Oh, oh, le Dieu de la restitution va lui donner, ça va lui redonner sa tête.
Alléluia.
2 Corinthiens 12. Amen. 2 Corinthiens 12. On va le lire, on a le temps. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Il ne faut pas se glorifier. J'enverrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Vous savez, en Christ, il y a plein de choses en Christ. Vous êtes comblés en Christ. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. Il n'a pas oublié, hein? Ça fait 14 ans. Frère François, qu'est-ce que toi tu as fait il y a 14 ans? Je ne sais plus, j'ai certainement des bêtises. Mais lui ici, il a vécu une expérience, demandez-lui autre chose, il dit, je ne sais plus, tout ce que je me souviens il y a 14 ans.
Voilà.
Ravi jusqu'au troisième ciel. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'était dans mon corps ou pas, si ce fut dans son corps, je ne sais.
Amen.
Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fût dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.
Amen.
Paul, comment est-ce que tu as compris tout ça? Il y a l'interprétation là-bas. Quand Dieu parle en langue, hein, l'interprétation doit venir. Paul a dû comprendre. Quelqu'un a interprété pour lui là-bas. On interprétera pour vous là-bas. Le langage des anges, c'est un langage merveilleux.
tous les sales mots, les gros mots que l'on a vont disparaître. C'est le langage des anges que nous allons avoir. Amen. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Alors, quand je me suis dans mes infirmités, hein, ne me plaignez pas. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Celui-là, c'est vraiment un grand ministre. Non, non, je suis votre frère. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan, il voulait, cet ange de Satan, n'est-ce pas, il fait son travail, hein, un ange de Satan, n'est-ce pas, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'embête tellement. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages. Vous pouvez m'outrager. Je me plais dans les calamités. Oh, ma sœur, ma maison peut brûler. Je me plais dans les calamités. Je me plais dans les persécutions. Je me plais dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ouf. Ne le plaignez pas. Ne le plaignez pas. Quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Or, nous avons ici des bien-aimés. Il y a ma fille ici, devant. À un moment donné, l'année passée, dans une, la douleur frappe. Une extrême faiblesse. Mais elle est là. Comment tu as tenu le coup? Je ne sais pas. Oh, mon frère Benoît, de coup sur coup, on se demande, mais comment est-ce que vous tenez le coup? Est-ce que c'est l'Assemblée? Non. Ce n'est pas l'Assemblée. Je vous enverrai un autre consolateur. L'Assemblée n'est pas consolatrice. Le consolateur, c'est Dieu. Vous qui avez subi des coups, pouvez-vous dire comment vous avez fait pour tenir le coup? Il y a des coups où on regarde, on dit, mais comment est-ce que la personne fait pour tenir le coup? Ma sœur là-bas derrière, elle voit sa petite sœur sauter par le balcon. Mais elle tient le coup. L'époux, il est là, je l'ai vu arriver. Comment est-ce que vous avez tenu le coup? Parfois, on ne s'imagine pas, on n'arrive pas à dire. Hein. Quand on dit, frère, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. On ne mesure pas ce que l'on dit. C'est dire que l'Esprit de Dieu a une force de consolation que l'homme n'a pas. Il n'y a pas que la force physique qui fait tomber les adversaires. Il n'y a pas que ça. Il y a la force qui vous relève. Il y a la force qui vous maintient debout. Il y a la force contre les douleurs, à résister aux douleurs, à les surmonter. Il y a la force émotionnelle aussi à surmonter tout cela par l'Esprit de Dieu. L'Esprit que Dieu a répandu dans nos cœurs. C'est pourquoi je ne suis pas orphelin. Vous n'êtes pas orphelin. Je ne m'en fais pas. Des coups, les coups arriveront. Jésus dit, vous n'en faites pas. Mais écoutez seulement la parole. Mettez-la en pratique. Parce qu'il ne nous le cache pas. Il dit, les vents souffleront. Les tempêtes viendront. Ces choses-là arriveront. Mais si vous avez bâti sur le roc, rien ne vous arrivera. Celui qui met en pratique, qui entend et qui met en pratique, il a bâti sa maison sur le roc. elle peut brûler, mais vous tenez quand même debout. Et, gloire à Dieu. Et je dis toujours, hein, quand je dis la maison, ne pensez pas au bâtiment. Hein. La maison, c'est vous, votre épouse, vos enfants. Ça peut tomber. Vous savez, ça tombe. Vous ne porterez pas deuil pour ça. Hein. Vous allez regretter, vous allez peut-être verser une larme, parce que vous avez fait des sacrifices, mais c'est tout. Vous n'allez quand même pas vous habiller en noir pour ça. Amen. Ne plaignez pas Paul. Ne nous plaignez pas non plus, frère. Le juste, vous connaissez ça, psaume 34. Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Il nous prévient. Le malheur atteint souvent le juste. Oh, quel malheur! Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'y a pas que la force physique auprès de Dieu. Allons, avant cela, voyons d'abord où est-ce qu'il déploie cette force-là. Déployé en Christ, Éphésiens chapitre 1er. J'aime beaucoup ce passage. Ça me réconforte souvent. Oh, quand la vague vient, elle frappe. Vous dites, frère, ça ne va pas, frère. C'était une vague très forte. Mais il est là. Pour vous relever. Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous êtes un homme, une femme heureux ou heureuse si vous connaissez, si vous avez la révélation de ce que Dieu vous a donné, de ce que Christ est.
Amen.
C'est pourquoi il dit à Pierre, sois heureux. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il a, la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La force que Dieu donne, c'est une force qui englobe tout. Tout cela, elle est au-dessus de tout. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Il était l'homme de douleur, mais il a supporté la douleur. Il est passé au travers de la douleur. Comme nos bien-aimés ici sont passés au travers de la douleur. Quand les tempêtes soufflent, vous savez, même les disciples ont été étonnés. Ceux qui étaient habitués à le suivre dans Matthieu chapitre 8. Frère Branham dit, Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme extraordinaire. Et la divinité, la plénitude de la divinité habitait en lui. Moïse, c'était un grand prophète, mais Moïse n'avait qu'une portion. Élie n'avait qu'une portion. Il a ressuscité le fils de la veuve. Et Élie a fait des miracles. Mais il n'avait qu'une portion. Vous et moi, nous n'avons qu'une portion. Mais en lui, c'était la plénitude.
Amen.
Alors ça, Matthieu 8. Si Dieu voulait bien me donner cette vision, ne fût-ce qu'une fois.
Amen.
Voir cette frêle chaloupe en plein milieu de l'océan, sous la tempête, avec lui dedans. Il monta dans la barque, verset 23, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Il savait une chose. La mer le connaissait. La mer connaît son créateur. Quand le créateur lui dit « Retire-toi », elle se retire. Quand le créateur lui dit « Écarte-toi », elle s'écarte. Laisse passer mon peuple, elle laisse passer mon peuple. Engloutis Pharaon, elle engloutit Pharaon. Dieu est merveilleux. Oh. Vous savez, je n'ai pas ressenti la fatigue la nuit. C'est merveilleux. Mais pour tenir ma promesse, j'ai dû escamoter beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave. Vous les trouverez. Dieu vous les montrera. Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Sommeil des justes. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Pierre regarde Jean. Jean regarde Matthieu. Matthieu regarde Thaddée. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Vent, tais-toi! Et le vent se tait. C'est merveilleux. Vous savez, l'homme peut prévoir une tempête. L'homme peut vous dire, il y a, comment ils appellent ça? Le typhon, je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est ce tourbillon dévastateur là qui ravage les cyclones. Il y a un cyclone qui va venir, qui va traverser tel pays, tel jour, à telle heure, entre telle heure et telle heure, hein, ça va passer. Ah, mais l'homme voit les dégâts arriver, mais il ne s'est pas arrêté. Mais Jésus peut arrêter ça. Jésus dit à Pierre, tu sais Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme on crible le froment. Il voulait vous secouer. Il voulait vous secouer sérieusement. Mais j'ai prié pour vous. J'ai arrêté cela pour vous.
Amen.
Pour que votre foi ne défaille pas.
Amen.
Oh, merci Seigneur. J'ai prié pour vous.
Amen.
Mais quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Vous n'êtes pas ordinaire. Il n'était pas ordinaire. C'était la même chose avec Samson. Hein. Nous allons dans Juges. Nous allons terminer. Juge 16. Samson partit pour Gaza et vit une femme prostituée et il entra chez elle. On va aller au verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. C'est ce que je cherchais. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force. D'où vous vient cette force? Vous qui avez été frappé, d'où vous vient cette force? D'où lui vient cette force pour savoir? Parce que ce n'est pas possible ce qu'il fait. On l'enferme avec une porte de d'airain, il s'en sort. On l'enchaîne avec des chaînes, ça ne va pas. Et en plus, il est gringalet. Mais d'où lui vient cette force? Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Ça, c'est la faiblesse. Des hommes, l'argent. Mais lui, il ne cherchait pas ça. Lui, sa faiblesse, c'était autre chose. Delila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » C'est pour te dire, hein, Delila, je ne suis pas comme un autre homme. Je suis différent. Les autres hommes, tu peux prendre même des cordes qui sont déjà sèches. Moi, il faut des cordes fraîches. Alors, ça ira. Tu pourras me dompter. Les princes des Philistins apportèrent à Delila cette corde fraîche. Voilà, on vient juste de le couper de l'arbre, qui n'était pas encore sèche. Elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes. Oh, comme seront un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. » Mais un enfant de Dieu, les cordes fraîches ne peuvent pas le retenir. Oh là 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 là. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Vous savez, il y a une chose qui m'a toujours étonné. Comment est-ce que les Philistins ne se sont jamais convertis au Dieu de Samson? Mais ils ont vu ce que Samson leur a fait. Ils ont vu que le Dieu de Samson, c'était un Dieu... Comment dire, tout puissant. Ils ont vu ça. Et que leur Dieu ne valait rien. C'est à se poser la question. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Hein. À Gaza, c'est toujours ce qui se passe. Hein. Toujours ce qui se passe. Ils n'ont toujours pas compris que ce peuple-là, qu'en fait, qui aurait dû disparaître depuis 1945, ce peuple-là est toujours vivant aujourd'hui. On ne s'occupe pas de ce qui se passe, hein. Pas de la politique qu'il y a là. Non, c'est un peuple qui ne peut pas disparaître. Vous pouvez mettre des chambres à gaz, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des camps de concentration. Ce peuple-là ne peut pas disparaître. Délila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué, verset 13, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et il arracha le tissu aussi. Elle lui dit, ça, c'est l'arme que beaucoup de femmes utilisent.
Voilà.
Pas vous, mes sœurs. Les femmes dans le monde. Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi, avec quelques larmes en plus, hein? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Frère François, elle s'est vraiment repentie. Faites attention.
Amen.
Pas nos sœurs ici, mais les femmes là-bas. Ça pleure facilement. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, il est tombé dans le piège. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Voilà le secret, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, elle essuie ses larmes. Elle envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, ça y est, je l'ai eu, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle endormit sur ses genoux et appela un homme. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Dieu voit ça. Abraham dit, Samson a bien commencé. Il a très bien commencé. Jusqu'à ce qu'il tombe dans le piège de Délila. L'Église aussi a bien commencé. Regardez les actes des apôtres. Les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Regardez comment les démons tombaient. Rien que l'ombre de Pierre. Regardez comment l'Église marchait. Mais plus tard, l'Église est tombée dans le piège. Alors Dieu dit, ah, c'est comme ça. Samson est tombé. Parce que je lui ai donné un moyen, il est tombé. Gédéon, c'est pareil, il est aussi tombé. David, c'est pareil, il est tombé. Salomon, n'en parlons pas, il est tombé. Dieu dit, très bien, j'irai moi-même. J'irai moi-même. Il est venu, il a testé lui-même, sur lui-même, l'Esprit Saint. L'Esprit qui était en Christ. Et l'Esprit qui était en Christ, c'était Dieu lui-même. Et il a marché. Il a été tenté de toutes les tentations possibles. On l'a outragé, on l'a persécuté, on a fait tout ce qu'on a voulu faire avec lui, il n'est jamais tombé, il n'a point ouvert la bouche. Il a gardé sa nature, quelles que soient les circonstances, il était toujours l'agneau de Dieu. Il n'a pas changé de nature, tantôt agneau, tantôt loup, tantôt agneau, tantôt tigre. Non monsieur, toujours agneau. Dieu dit, voilà ce que je vais faire avec eux. Exactement semblable à lui.
Amen.
Qu'est-ce que je vais faire? L'esprit qui était en lui, je le répandrai sur vous.
Amen.
Et Dieu va le répandre sur vous. Amen. Alors, donc, lorsqu'il le répand sur vous, ça, ce qui est arrivé à Samson, ça ne peut pas vous arriver. Parce que vous êtes scellé. Une fois que Dieu vous a donné ça, Dieu ne vous l'enlève pas. Dieu ne vous l'enlève pas. Si Dieu vous baptise du Saint-Esprit, il ne peut plus vous l'enlever. Parce que s'il vous l'enlève, c'est qu'il s'est trompé. Et Dieu ne peut pas se tromper. Le Saint-Esprit que Dieu donne, c'est pour... Il a dit, dans Jean 14, on l'a lu, éternellement, avec vous. Vous êtes scellés de ce Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là, vous ne pouvez pas... Et maintenant, tous les Delilah peuvent venir. Vous pouvez dire à Delilah, écoute, je suis baptisé du Saint-Esprit. Eh bien, Delilah ne saura pas amener les Philistins pour vous dompter. Ce sera impossible parce que le Saint-Esprit est indomptable. Amen. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un esprit de timidité. Nous ne sommes pas faibles devant les cancers. Nous ne sommes pas faibles devant les deuils. Nous ne sommes pas faibles devant la tuberculose. Nous ne sommes pas faibles devant le sida. Nous ne sommes pas faibles devant toutes ces choses. Nous sommes forts. Pas faible devant l'ivrognerie.
Amen.
Monsieur. Ah, je n'arrive pas à me débarrasser de Johnny Walker. Tu n'y arrives pas. Dieu sait comment te débarrasser de Johnny Walker.
Amen.
Il sait comment le faire. Tant qu'il ne le fait pas, c'est que tu n'y es pas encore.
Oui.
Vous savez, Amen. Le Saint-Esprit, hein, il tombait sur les disciples à la Pentecôte. À peine il se faisait baptiser, il recevait le Saint-Esprit. Pourquoi ? Jean avait déjà fait un gros travail. Jean avait fait un gros travail de repentance. Jean avait dit, Jean était venu avec ce message de repentance dont il baptisait pour la repentance. Et les gens s'étaient repentis. Leur repentance était sincère. Aujourd'hui, beaucoup se font baptiser parce que le copain s'est baptisé, parce que le papa s'est baptisé, la maman ou l'époux ou l'épouse s'est fait baptiser. Non, non. Ou bien, ou pour faire juste, j'appartiens à telle église. Non, non. Le baptême ne vous fait pas appartenir à telle assemblée. Non. Le baptême, c'est un engagement que vous prenez envers Dieu.
Amen.
Alors, lorsque vous faites baptiser, et que Dieu maintenant, si votre repentance est sincère, repentez-vous et soyez baptisés. Et votre baptême est correct et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous aurez le don du Saint-Esprit. Et ce don-là, Dieu ne se repent pas de ce don-là. Dès qu'il vous le donne, il est à vous. Le Saint-Esprit est à vous. Et mes enfants, pour vos enfants, et mon oncle qui est là-bas, pour ceux qui sont au loin, et mes générations, mes descendants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu en appellera. Frère Branham dit, tant que Dieu appelle aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'âge pentecôtiste, est toujours là. Tant que Dieu appelle. Yes.
Amen.
N'êtes-vous pas heureux?
Amen.
Vous êtes fort.
Amen.
Vous n'êtes pas faible.
Non.
L'obstacle qui se présente devant vous, vous pouvez le surmonter.
Amen.
Frère Tombeau, ou bien un de vous deux. Bien. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes forts. Et nous allons chanter comme des gens forts, pas comme des gens accablés par les problèmes. Vous êtes plus forts que votre problème. Vous êtes plus forts que vos soucis. Veux-tu briser plus dans les chants de victoire?